VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 21 mars 2023. L'Éthiopie dénonce des accusations américaines sélectives en rapport avec les crimes de guerre au Tigré. En RDC, l'ONU déplore les entraves sécuritaires et administratives à l'activité humanitaire. Au Kenya, 238 personnes arrêtées, 31 policiers blessés lundi suite aux manifestations de l'opposition. Ici aux États-Unis, Donald Trump face à la justice, sera-t-il le premier président américain à être arrêté et inculpé?
L'un de ses avocats a déclaré que l'ancien président américain avait fait signer le chèque de 130 000 dollars pour protéger sa famille.
Dans la partie magazine, Jacques Aristide fera le point sur les réactions de la classe politique américaine. Vladimir Poutine et Xi Jinping ont discuté à Moscou d'une coopération plus étroite entre la Chine et la Russie. Ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco, pour l'instant le journal. Des accusations sélectives, c'est la réaction de l'Éthiopie à la suite des accusations américaines sur les crimes de guerre commis durant le conflit dans la région du Tigré. Pour le gouvernement éthiopien, les responsabilités ne sont pas établies de façon équitable. Alexandrine Ollongon.
C'est tout juste après son retour de l'Éthiopie lundi soir que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a accusé tous les belligérants du conflit éthiopien d'avoir commis des crimes de guerre. Il a accusé en particulier l'armée fédérale éthiopienne et ses alliés de crimes contre l'humanité, dont des meurtres, viols et d'autres formes de violences sexuelles et de persécutions, sans mentionner à ce sujet les forces des autorités rebelles du Tigré. Pour le gouvernement éthiopien, cette déclaration est sélective. Selon Addis Abeba, les États-Unis semblent exonérer une des parties de certaines accusations de violation de droits humains. Lors de sa visite le 15 mars dernier en Éthiopie, Anthony Blinken avait lié la reprise d'un plus grand partenariat économique avec l'Éthiopie à la réconciliation et l'établissement des responsabilités dans les crimes commis durant le conflit au Tigré.
À la suite de l'Éthiopie, l'Érythrée a qualifié aujourd'hui de diffamatoire et sans fondement les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés selon Washington par son armée durant la guerre au Tigré. Pour sa part, la commission d'enquête de l'ONU a fait savoir que l'accord de paix ayant mis fin à 2 ans de brutal conflit au Tigré ne doit pas empêcher d'enquêter sur les crimes de guerre contre l'humanité, a déclaré aujourd'hui le président de ce groupe d'enquêteurs, Mohamed Chande Othman, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. L'ONU a dénoncé ce mardi la répression croissante des voix critiques au Burundi. Après la récente arrestation de 5 défenseurs des droits humains, les militants ont été inculpés pour rébellion, atteinte à la sûreté de l'État et au bon fonctionnement des finances publiques. Pour l'ONU, ces accusations ne semblent s'appuyer que sur leurs relations avec l'ONG internationale Avocats sans frontières. L'insécurité, mais aussi les contraintes administratives, entravent l'accès humanitaire dans les régions troublées de la République démocratique du Congo. C'est ce que déplore le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU, OCHA, dans une étude diffusée ce mardi. Le point avec Rosine Monizero.
En RDC, l'accès humanitaire constitue un défi majeur dans l'assistance aux populations dans le besoin, constate OCHA RDC dans une analyse de la sévérité des contraintes d'accès humanitaire. Les entraves, selon OCHA, incluent entre autres l'insécurité, les contraintes bureaucratiques et les restrictions de mouvement. Les provinces de l'Est, en proie depuis près de 30 ans aux violences de multiples groupes armés, sont particulièrement concernées. Dans le Nord Kivu, OCHA déplore, outre les affrontements armés, des actes de violence contre le personnel humanitaire, leurs biens et leurs moyens de locomotion. Il rappelle notamment qu'un hélicoptère a essuyé des tirs le 24 février, ce qui a entraîné une suspension des vols humanitaires dans certaines régions de l'Est du pays. La situation inquiète tous les acteurs humanitaires, mais malgré tout, nous travaillons pour atteindre les personnes dans le besoin et venir en aide aux sinistrés, assure par ailleurs une responsable d'OCHA. La RDC connaît une grave crise humanitaire, avec dans l'ensemble du pays plus de 5 millions de déplacés, dont des centaines de milliers chassés de chez eux depuis un an, dans le Nord Kivu, dans l'est du pays, en proie à la résurgence de la rébellion du M23.
Au Tchad, plus de 400 rebelles ont été condamnés aujourd'hui à la prison à perpétuité, notamment pour atteinte à la vie de l'ancien président Idriss Déby Itno, tué au front en 2021 lors de leur offensive. 24 personnes ont été acquittées à l'issue du procès de masse qui s'était ouvert il y a plus d'un mois. Les audiences de la cour criminelle de la cour d'appel de N'Djamena se sont déroulées à huis clos dans l'enceinte de la prison de Klessoum, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale, dans un pays régulièrement pointé du doigt pour des procès de masse. Un total de 238 personnes ont été arrêtées et 31 policiers blessés lundi au Kenya à la suite d'affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition. C'est ce qu'annonce mardi un communiqué de la police. John Lindon.
Le chef de l'opposition, Raila Odinga, avait appelé ses soutiens à manifester contre l'inflation et le gouvernement. Selon la police, 213 personnes ont été arrêtées dans la capitale kenyane, Nairobi, et 25 autres dans l'ouest du pays, bastion de l'opposition. La manifestation dans la capitale avait été interdite dimanche par les autorités en raison d'un non-respect du délai de dépôt de la demande d'autorisation. Nous voulons rappeler à la population que personne n'est au-dessus des lois, a affirmé la police, tout en dénonçant les manifestations illégales. Lundi, un étudiant avait été tué par la police à Maseno, dans l'ouest du pays. La police soutient également que quelques 31 membres des forces de l'ordre ont été blessés. Il s'agit des premiers troubles majeurs depuis l'arrivée au pouvoir de William Ruto, victorieux en août d'une élection présidentielle très serrée, au résultat contesté par son rival malheureux Odinga, qui continue d'affirmer qu'elle lui a été volée et que le gouvernement Ruto est illégitime.
Plus de 550 personnes ont été arrêtées lundi en Afrique du Sud, selon les autorités, lors de manifestations à l'appel du Parti des combattants pour la liberté économique mené par le provocateur Julius Malema. Ce dernier avait exhorté les Sud-Africains à la révolution et à bloquer le pays lundi pour exiger la démission du président Cyril Ramaphosa. Le président Ramaphosa avait la semaine dernière promis d'empêcher l'anarchie. Le journaliste français Olivier Dubois, ex-otage au Sahel, est arrivé aujourd'hui en France après sa libération la veille avec un otage américain retenu pour sa part pendant plus de 6 ans. Les circonstances de la libération des deux hommes restent pour l'heure incertaines, inconnues. Niamey n'a fait pour l'heure aucun commentaire sur son rôle dans les négociations. Au Burkina Faso, 11 civils, dont 5 supplétifs de l'armée, ont été tués dimanche et lundi lors de plusieurs attaques de djihadistes présumés dans le centre, est et l'est du pays. Ces attaques interviennent quelques jours après une opération de l'armée qui avait permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se sont réunis aujourd'hui à Moscou pour de nouvelles discussions consacrées au conflit en Ukraine et au renforcement de leurs relations stratégiques face à l'Occident. Les détails avec Claire Morin-Gibou.
Au sortir de ces négociations à huis clos, le président chinois Xi Jinping a affirmé avoir signé avec son homologue russe un accord destiné à faire entrer les relations entre les deux pays dans une nouvelle ère de coopération. La Chine et la Russie ont conclu un accord sur le gigantesque projet de gazoduc Force de Sibérie 2 qui reliera la Sibérie au nord-ouest de la Chine. Vladimir Poutine s'est félicité de cet accord, précisant qu'à la mise en service, 50 milliards de mètres cubes de gaz transiteront via ce gazoduc destiné à augmenter sensiblement les livraisons russes vers la Chine. D'autre part, la Chine s'est également prononcée pour un règlement pacifique du conflit en Ukraine. Une déclaration saluée par Paris qui a dit que Pékin pourrait jouer un rôle utile en vue des négociations de paix. Hier, les deux dirigeants s'étaient déjà rencontrés pour un premier entretien informel de plus de 4 heures, pendant lequel ils s'étaient affichés en contrepoids des Occidentaux, dont les rapports avec Pékin et Moscou sont tendus.
En France, le président Emmanuel Macron va s'exprimer demain mercredi à la télévision, 2 jours après l'adoption du texte sur la réforme controversée des retraites et le rejet de justesse d'une motion de censure du gouvernement. La contestation de la réforme des retraites se poursuit aussi dans la rue, où des incidents ont éclaté à Paris, mais aussi à Lille, Strasbourg, Nantes et dans de plus petites villes. L'intersyndicale française a appelé à une nouvelle journée de grève et de mobilisation nationale programmée pour jeudi, la 9e depuis le mouvement lancé en janvier par les syndicats dans un rare front uni. Les États-Unis ont inauguré aujourd'hui leur première garnison militaire permanente en Pologne, ce qui, selon l'ambassadeur américain à Varsovie, est un signe de l'unité de l'OTAN face à l'agression russe. La garnison 8e en Europe sera chargée de coordonner le soutien aux forces américaines déployées en Pologne et sur l'ensemble du flanc oriental de l'OTAN. Elle servira de quartier général du 5e corps de l'armée américaine. Plus de 10 000 soldats américains sont stationnés actuellement en Pologne, pays par lequel transite la majeure partie du matériel militaire destiné à l'Ukraine. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
L'AFC, ou Africa Finance Corporation, a annoncé aujourd'hui l'obtention d'un financement de 253 millions de dollars du Fonds vert pour le climat. C'est le plus important engagement de ce mécanisme financier des Nations Unies jamais signé. Ce capital servira à financer un fonds dédié aux infrastructures résilientes en Afrique. Au Sénégal, les ressources globales provisoires, hors dons en capital, de l'État, évaluées à plus de 3 214 milliards de francs CFA fin décembre 2022, ont enregistré une augmentation de 12,2% comparativement à la même période de 2021, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. La situation du secteur bancaire américain se stabilise et il reste solide, a estimé ce mardi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, après la faillite de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank qui font vaciller le secteur au niveau mondial. Madame Yellen a souligné que la Banque centrale américaine a mis en place un dispositif pour prêter de l'argent aux banques depuis une semaine afin de leur éviter une débâcle.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball Africa League pour commencer, les matchs de la Conférence Sahara prennent fin ce mardi.
Oui, le suspense reste entier à la Dakar Arena pour certaines équipes, c'est le cas du club hôte, l'AS Douane du Sénégal qui doit gagner ce soir face à l'US Monastir pour espérer voir les cas. À suivre aussi le choc ouest africain entre Abidjan Basketball Club et le stade malien de Bamako qui doit aussi gagner pour maintenir ses chances. Hier, les Tunisiens se sont frayés un chemin vers les playoffs après leur victoire sur Rwanda Energy Group 84-79. Pareil pour les Ivoiriens d'Abidjan Basketball Club qui ont battu les Nigériens de Kwara Falcons 79-76. Les Nigériens finissent ainsi cette phase de poule sans la moindre victoire. 5 matchs, 5 défaites.
Basketball toujours ici en NBA, les Bulls stoppent les Sixers.
Ascension en playoff retardée pour Philadelphie, battue après une double prolongation à domicile par Chicago, 109-105. New York cède aussi sur son parquet, battu par Minnesota 140-34 malgré 57 points de Julius Randle. Memphis a eu le dernier mot sur Dallas 112-108. Avec ce troisième succès de rang, les Grizzlies reprennent la deuxième place à Sacramento. Défait à Utah 128-120. Golden State s'est imposé sans trembler ni convaincre chez la lanterne rouge. Houston 121-108.
Football, Timothy Weah forfait avec les États-Unis.
Le joueur de Lille, victime samedi d'une commotion cérébrale contre Toulouse et contraint à 7 jours d'arrêt, va manquer le rassemblement avec la sélection américaine. L'annonce a été faite par le LOSC. Les États-Unis affrontent Grenade le 25 mars et le Salvador 3 jours plus tard dans le cadre de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Attaquant, le fils de l'unique Africain Ballon d'Or, l'actuel président du Liberia, George Weah, joue en ce moment arrière latéral à Lille en raison des blessures d'Ismaili et de Bafodé Diakité. Si l'avis médical est favorable, Timothy Weah, 23 ans, devrait être disponible pour le prochain match du LOSC le 2 avril contre l'Orient pour la 29e journée.
Kylian Mbappé désigné nouveau capitaine des Bleus par Deschamps.
La star du PSG a été désigné capitaine de l'équipe de France par le sélectionneur Didier Deschamps, en remplacement de Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale. À 24 ans, Kylian Mbappé, 66 sélections, 36 buts, a accepté cette nouvelle fonction après une discussion lundi soir avec son sélectionneur. Deschamps s'est aussi entretenu avec Antoine Griezmann promu vice-capitaine à la place de Raphaël Varane, qui a également pris sa retraite internationale après le Mondial 2022. L'attaquant du Paris Saint-Germain, dont la première sélection en bleu remonte à mars 2017, disputera son premier match comme capitaine ce vendredi contre les Pays-Bas au Stade de France en ouverture des qualifications à l'Euro 2024.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'ancien président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il s'attendait à être inculpé et arrêté par le procureur du district de Manhattan ce mardi pour des accusations découlant d'une enquête sur un paiement de $130,000 versé en 2016 à Stormy Daniels, une star pornographique. Laurel Bauman rend compte de la réaction des dirigeants politiques américains. Récit Jacques Aristide.
Des procureurs de Manhattan ont mené durant de longues années une enquête sur un paiement qu'ils accusent l'ancien président Donald Trump d'avoir effectué à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels. Samedi dernier, l'ancien locataire de la Maison Blanche a affirmé sur sa plateforme de réseau social qu'il serait arrêté dès ce mardi. Il a également appelé ses partisans à descendre dans la rue. D'après le bureau du procureur du district de Manhattan, Donald Trump aurait payé $130,000 à Stormy Daniels avant les élections de 2016 pour qu'elle garde le silence sur une affaire. Le paiement pourrait enfreindre les lois sur le financement des campagnes. L'un de ses avocats a déclaré que l'ancien président américain avait fait signer le chèque de $130,000 pour protéger sa famille. Joe Tacopina, l'un des hommes de loi de Donald Trump.
Il a fait cela avec des fonds personnels pour éviter que quelque chose de faux ne sorte en public, mais aussi embarrassant pour lui-même, sa famille et son jeune fils.
Donald Trump a déjà fait part de sa candidature à l'élection présidentielle américaine de 2024, même sur fond de cette affaire qui défraie la chronique en ce moment aux États-Unis. Les réactions sont légion. Elizabeth Warren est une sénatrice démocrate.
Personne n'est au-dessus des lois, pas même l'ancien président des États-Unis. Et s'il y a eu une enquête, cette enquête devrait être autorisée à avancer de manière appropriée. S'il est temps de porter des actes d'accusation, alors ils porteront des actes d'accusation. C'est ainsi que fonctionne notre système juridique.
Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, l'a défendu.
Il s'agit d'une autre poursuite à caractère politique dirigée contre l'ancien président des États-Unis.
Pendant ce temps, le républicain Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, a appelé au calme, se disant contre toute manifestation.
Je ne pense pas que les gens devraient protester contre cela, non.
Même des sympathisants de Donald Trump ne se sont pas montrés en faveur de l'appel à manifester. Suleyman Al-Tamimi est l'un d'eux.
Trump devrait être prudent lorsqu'il utilise le terme « protestation ». Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle attaque comme celle contre le Capitole. Même si je suis son partisan, je pense que ce terme doit être utilisé à bon escient car il pourrait semer le chaos.
Pour l'heure, le procureur du district de Manhattan n'a fait aucun commentaire. Lundi après-midi, les forces de l'ordre de New York procédaient à l'installation de barrières de sécurité en cas d'attroupement.
À la découverte des comptes du Gabon et d'ailleurs, tel est le thème autour duquel s'organise la journée mondiale du compte célébrée lundi. L'initiative portée par le Club Littérature Verte de l'Université Omar Bongo rassemblait conteurs et publics divers ayant le goût de la lecture. L'événement baptisé L'Arbre à Livres prévoyait, outre les jeux ludiques, des expositions et des déclamations de contes par les étudiants. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Devant un auditoire épris des contes traditionnels, Clarisse, étudiante en littératures africaines, raconte l'aventure d'une jeune fille en mission au pays des morts. Un voyage dans le seul but d'obtenir de sa défunte mère une calebasse de restitution après avoir brisé malencontreusement celle de sa belle-mère.
Durant cette aventure, elle fera des rencontres extraordinaires, notamment avec des êtres assez étranges, bizarres même, et le tout sera couronné par un succès et elle sera richement bénie. La morale de l'histoire est d'être obéissant, serviable et accomplir des activités avec amour.
Des valeurs indissociables de la culture gabonaise dont l'auteur semble vouloir imprégner le lecteur. Mais qu'il s'agisse du récit sur la calebasse ou bien d'autres légendes d'ici et d'ailleurs, un constat fait presque l'unanimité. Le conte social perd du terrain. Enseignant de lettres à l'université Omar Bongo de Libreville, Da Charlie Mapangu a sa toute petite idée sur la question.
Il n'y a pas cette politique du livre. Et la politique du livre qui passe par exemple par ce genre qu'on appelle le conte. Ce conte qui enseigne des valeurs. Aujourd'hui, le petit français, lorsque vous lui parlez de La Fontaine, il se retrouve parce que La Fontaine, avec toutes ses fables, incarne en fait cette société française avec toutes ses valeurs.
L'organisatrice de l'Arbre à Livres est malgré tout convaincue que le conte gabonais est dépositaire d'une identité culturelle de ses peuples, d'où son appel à le découvrir. Professeur Léa Zam Avezo, promotrice du Club Littérature Verte.
On peut connaître les peuples du Gabon à travers le conte. Mais je précise en réalité, il y a effectivement, le conte est dépositaire d'une mémoire. Donc les anciennes pratiques, celles d'autrefois en réalité, sont conservées dans nos contes.
L'objectif de cette journée consiste par ailleurs à mettre l'accent sur le néocontage.
Parce que ces néocompteurs s'inspirent des contes traditionnels et ils en créent de nouveaux parce qu'effectivement, ils parlent des questions qui nous occupent aujourd'hui, qui nous préoccupent aujourd'hui dans notre environnement.
Sur l'une des allées du campus, le concept l'arbre à livres se matérialise par deux armoires à livres décorées, un dispositif autour duquel sont également installés divers meubles et des jeux de société tels que le Scrabble, le Ludo ou le Songo. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Dans le nord du Libéria, une zone essentiellement rurale, un bus se rend d'école en école pour enseigner l'utilisation des ordinateurs. Ce laboratoire informatique mobile, le New Breed Technology Training, cible des enfants, des jeunes et des femmes vivant dans des communautés défavorisées. Le projet a débuté en novembre 2022 et soutient avoir aidé un millier d'apprenants. Récit Nani Talani.
Un pimpant minibus jaune se gare à l'ombre d'un arbre fromager rouge devant une école secondaire de Gonta dans le nord du Libéria. Mais il n'est pas venu pour amener les enfants à la maison. L'arrière du véhicule, dans le dos du conducteur, est vide de banquettes. Tout le long des vitres s'étire un plan de travail sur lequel sont disposés une dizaine d'ordinateurs portables soigneusement alignés devant des chaises. Des écoliers et des écolières en uniforme, tout juste sortis de leurs cours habituels, montent alors dans le minibus et s'assoient devant les laptops pour apprendre à s'en servir. À l'initiative de ce projet, Jeremiah Lloyd Copper, un technicien de l'information et des communications âgé de 36 ans, qui a lancé ce Computer Lab on Wheels en novembre.
Le laboratoire informatique mobile est une innovation. Avec un laboratoire bien équipé comme celui-ci, nous pouvons aller partout et former des enfants, des jeunes et des femmes vivant dans des communautés défavorisées.
Ayant travaillé dans des cybercafés de la région, Jeremiah Lloyd Copper s'est promis de connecter les communautés rurales. Il a obtenu un financement de 40 000 dollars du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour créer sa start-up New Breed Tech Hub. Jeremiah Lloyd Copper assure que son entreprise a déjà dispensé le savoir informatique à un millier d'élèves, parmi eux Alain Collet Jr. et Comfort Ngbele.
C'est une organisation qui enseigne l'informatique et qui est venue nous enseigner l'informatique, qui nous aide à comprendre les ordinateurs et à faire nos travaux rapidement sur ordinateur.
Martin Bipeidou, formateur informatique, constate un réel engouement des populations chaque fois que l'équipe arrive dans une nouvelle communauté. Les élèves sont enthousiastes, ils veulent apprendre et ils souhaitent même que le laboratoire informatique mobile vienne les voir plus souvent, plus fréquemment, pour bien apprendre et éviter peut-être de revivre la même expérience que Jeremiah Lloyd Copper. Ce dernier ressent encore l'humiliation subie à son premier jour d'université quand il s'est présenté à un cours de technologie de l'information sans savoir taper sur un clavier.
Les gens utilisent des ordinateurs parce que si vous utilisez un ordinateur, si vous entrez des mots qui ne sont pas corrects, l'ordinateur vous corrigera. L'ordinateur est donc très important, il permet d'écrire plus vite qu'au tableau noir. Les gens font des erreurs sur les tableaux et les cahiers, mais les ordinateurs ne font pas d'erreurs.
Jeremiah Lloyd Carper ne veut pas que le projet dépende des donateurs. Lui et son équipe essaient de le pérenniser en collectant des frais minimaux auprès des participants. Le Libéria est à la traîne en matière d'Internet. Seuls 26% de sa population l'utilisait en 2020, contre 70% en Afrique du Sud ou 90% en Australie, selon la Banque mondiale.
Dorothmandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les États-Unis et leur stratégie sécuritaire dans le Sahel et en Afrique. Quelques 1300 militaires de 29 pays ont pris part ce mois au Ghana et en Côte d'Ivoire aux exercices militaires Flintlock. De son côté, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, qui était en visite au Niger la semaine dernière, a estimé que Washington est un partenaire plus fiable dans la lutte contre la pauvreté et la violence djihadiste. Quel type de coopération pour venir à bout du terrorisme sur le continent? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
On termine avec du basketball sur le continent. Au-delà des matchs de la conférence Sahara qui se déroule actuellement à Dakar, la Basketball Africa League BAL multiplie les activités autour du sport, de l'économie et de l'investissement social des acteurs sportifs. Une initiative dans laquelle la Ligue peut compter sur les joueurs actuels de la BAL, d'anciens joueurs de la NBA sur la NBA Africa. La correspondance de Sedina Abagay à Dakar.
Développer des opportunités pour les jeunes, développer un écosystème, une économie et une industrie du sport qui puisse bénéficier au continent africain, tels sont les objectifs visés par la Basketball Africa League en compagnie d'anciens joueurs de la NBA. Un investissement important, d'après Yann Mahimi, ancien joueur NBA.
Pour que cette ligue ait lieu, il faut des infrastructures. On a besoin aussi en Afrique d'avoir des terrains, des salles qui soient belle, qui puisse accueillir des événements internationaux comme la BAL, où le meilleur du basket se joue. On a les 12 meilleurs clubs du continent, où on a associé à côté de ça tout un aspect social, où peu importe où on va, on essaye d'inspirer la jeunesse, que ce soit fille ou garçon, à travers des actions sociales, et aussi à travers la professionnalisation du sport, on essaye d'amener nos jeunes talents dans une ligue et de les exposer au plus haut niveau du basket africain.
Cette implication des anciens joueurs de la NBA est primordiale pour le développement du basketball en Afrique. C'est pourquoi la BAL et la NBA Afrique s'appuient sur eux pour dérouler leurs activités, mais aussi pour guider les prochaines générations de champions africains, comme l'indique Victor Williams, CEO de NBA Afrique.
They've been really strong supporters.
Ils sont des soutiens indéfectibles dans tout ce qu'on fait sur le continent. C'est toujours bien de les avoir autour de nous, ici dans les différentes activités que nous faisons sur le continent. Beaucoup d'entre eux sont devenus des investisseurs dans la NBA Africa. Donc, nous avons leur soutien financier. Nous tirons également bénéfice de leur présence et c'est toujours un plaisir de les voir interagir avec les jeunes filles et garçons d'Afrique et de les inspirer avec leur histoire.
Pour montrer des exemples inspirants, la Basketball Africa League a mis en place le prix Ubuntu doté de $5,000 pour récompenser un joueur qui a participé à la BAL et qui représente le mieux la ligue par ses efforts envers sa communauté. Pour l'année 2022, le joueur rwandais du REG, Jean-Jacques Wilson, a été primé. Ces derniers estiment que ce prix représente un aboutissement important.
C'est un très grand accomplissement pour moi et la communauté avec laquelle je travaille. Je m'efforce de les aider à pratiquer le basketball parce que maintenant que je suis au haut niveau, beaucoup de jeunes du Rwanda veulent être comme moi. Dans ma cité également, beaucoup s'inspirent de moi et j'essaie toujours de voir dans quelle mesure je peux aider la jeune génération qui essaie de réussir comme moi.
Œuvrer dans le social et mettre en place des mécanismes pour le développement du sport, telle est la volonté affichée par d'anciens joueurs NBA pour aider la balle, la NBA Afrique et les joueurs africains dans leurs différentes initiatives pour un basketball plus inclusif sur le continent. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur notre site internet voafrique.com, nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.